VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui. Nous sommes mardi 24 octobre 2017. Au sommaire, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé à Bangui alors que les casques bleus ont toujours du mal à arrêter la violence contre les civils.
Les forces qui sont sur place sont largement équipées, mais ils ne font pas le travail qu'ils sont venus faire. Parce que la première mission qui est la leur, c'est de ramener la paix en République centrafricaine.
Au Kenya, la Cour suprême se réunit demain en urgence pour examiner une demande de report du scrutin présidentiel prévu pour jeudi. Les États-Unis n'excluent pas un renforcement de leur présence militaire en Afrique après la mort de 4 soldats américains au Niger. Le congrès du Parti communiste chinois a pris fin ce mardi. Pékin confirme ses ambitions sur le plan mondial. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Le chef d'état-major américain entend recommander au Pentagone et à la Maison-Blanche un renforcement de la présence militaire américaine en Afrique. Après la chute de Raqqa et de Mossoul, l'Afrique est l'un des endroits où nous savons que le groupe État islamique espère renforcer sa présence, a indiqué le général Joseph Dunford. Nous savons à quel point la Libye et le Sinaï sont importants pour le groupe. Nous savons à quel point ils ont essayé de s'établir en Afrique de l'Est et bien sûr, nous parlons maintenant de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il ajouté au cours d'un point de presse consacré à l'enquête en cours sur l'embuscade et a coûté la vie à 4 militaires américains le 4 octobre au Niger. Au Gabon, un projet de révision de la Constitution agite depuis quelques jours la classe politique après une élection présidentielle mouvementée en 2016. Le pays se prépare à des législatives en 2018. Le texte qui modifie une quarantaine d'articles devrait être débattu au Parlement d'ici 2 semaines, selon le porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilibinze. Le projet porte notamment sur la détermination des rapports entre le président et le gouvernement en cas de cohabitation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé cet après-midi à Bangui pour une visite de 4 jours en République centrafricaine. Sa tournée sera marquée par une série de rencontres avec les autorités et différents acteurs centrafricains dans la capitale Bangui et également à Bangassou. Le point avec Freeman Sipila.
Arrivé cet après-midi à Bangui, le secrétaire général de l'ONU participe ce soir aux côtés du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à la commémoration de la journée des Nations Unies. Antonio Guterres déposera une gerbe de fleurs en mémoire des casques bleus morts pour la cause de la paix en Centrafrique. Le numéro 1 de l'ONU et le chef d'État centrafricain se retrouveront demain au siège de la présidence pour un tête-à-tête suivi d'une déclaration à la presse. Le secrétaire général se rendra ensuite à Bangassou où il rencontrera les responsables locaux, les déplacés internes ainsi que les membres du comité local de paix. Le jeudi 26 octobre, M. Guterres prendra part avec Faustin Archange Touadéra à une réunion sur le processus du désarmement, démobilisation et réintégration DDRR avant de se rendre ensemble au monument des martyrs pour rendre hommage aux victimes centrafricaines. Son calendrier prévoit également des rencontres avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des responsables religieux et des défenseurs des droits de l'homme. Le vendredi 27 octobre, le secrétaire général prononcera un discours à l'Assemblée nationale avant de visiter PK5. Dans l'après-midi, il donnera une conférence de presse à l'aéroport Bangui-Poco avant de quitter la République centrafricaine. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les Kenyans sont à nouveau appelés aux urnes jeudi pour une élection présidentielle à haut risque en raison du boycott annoncé par l'opposition. La Cour suprême se réunit demain pour examiner une demande de report déposée par des militants des droits de l'homme. Le point avec Dili Diko.
L'opposition kényane ne cesse de dénoncer l'organisation hâtive du scrutin. Mais la commission électorale assure être prête. Son président, Wafulu Chebukati, de plus en plus isolé, a toutefois émis publiquement des doutes sur la capacité de la commission à garantir la crédibilité du scrutin. Les appels se multiplient en faveur d'un report de l'élection au-delà du 31 octobre. La Cour suprême doit se prononcer après avoir été saisie par 3 militants voulant un report pouvant aller jusqu'à 90 jours. L'opposant Raila Odinga a annoncé son retrait sans une profonde réforme de la commission électorale. De nombreuses manifestations interdites par le ministre de l'Intérieur ont été réprimées. À Kisumu, fief de l'opposition, environ 2000 manifestants ont affronté la police. À Nairobi, des centaines de personnes ont été dispersées au gaz lacrymogène. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 40 personnes ont été tuées depuis le 8 août par les forces de l'ordre.
L'opposition ougandaise dénonce la détention sans charge depuis plusieurs jours de son leader Kizza Besigye et de deux responsables du parti après une manifestation qui avait fait un mort. Le point avec Solange Nyamulisa.
Harold Kaija, secrétaire général adjoint du Forum pour le changement démocratique, a déclaré qu'ils sont très inquiets de la détention arbitraire de Kizza Besigye et de ses collègues. Après les avoir visités au poste de police de Nagalama, dans la banlieue de Kampala, il a expliqué que les trois hommes ont été arrêtés jeudi, au lendemain d'une manifestation à Rukungiri, ville d'origine de Kizza Besigye, où un manifestant avait été tué. Les opposants contestent un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Cela permettrait au président Yoweri Museveni, 73 ans, de briguer un sixième mandat en 2021. Hassan Kasingye, porte-parole de la police, a indiqué que Kizza Besigye est impliqué dans une affaire sans donner de détails. Il a ajouté qu'il sera déféré en justice sans donner de date.
Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, ne savait pas que l'Organisation mondiale de la santé voulait le nommer ambassadeur de bonne volonté, selon son porte-parole. Une décision finalement annulée après une vive controverse. Le président a été totalement surpris quand il a appris qu'il avait été nommé. Il l'a appris par les médias, a assuré son porte-parole Georges Charamba. Le bilan de l'épidémie de peste qui frappe Madagascar depuis le mois d'août continue de s'aggraver. 124 personnes sont mortes. Selon le nouveau bilan publié par le ministère de la Santé, la maladie a déjà infecté 1133 personnes. Parmi elles, 780 ont été guéries et 219 étaient en cours de traitement. Les autorités soudanaises doivent garantir un accès sans restriction aux travailleurs humanitaires. C'est ce qu'a indiqué le commissaire européen à la gestion des crises au lendemain du déblocage d'une nouvelle aide de l'Union européenne par le Soudan.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron ne veut pas donner de leçons sur les droits de l'homme à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. De la même façon que je n'accepte qu'un autre pays, qu'aucun autre dirigeant ne me donne des leçons sur la manière de gouverner mon pays. Je crois à la souveraineté des États, a déclaré M. Macron lors d'une visite à Paris d'al-Sissi. Les ONG de défense des droits humains critiquent le régime égyptien qu'elles accusent de répression envers les opposants. Le président Donald Trump se rend ce mardi au Sénat américain pour presser sa majorité d'adopter rapidement la grande baisse d'impôts qu'il a promise pendant la campagne électorale. Il est rare que le président des États-Unis se rende au Capitole pour rencontrer les élus. La dernière fois remonte à mars, deux mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Il avait alors averti les républicains de la Chambre des représentants qu'ils risquaient de perdre leur majorité si la réforme du système de santé n'était pas adoptée. Cette réforme ayant échoué, il joue maintenant son va-tout avec la refonte de la loi sur la fiscalité. Le 19e congrès du Parti communiste a pris fin ce matin au Palais du Peuple, place Tiananmen, à Pékin. On fait le point avec Clermont Hingebourg.
C'est un véritable tour de force qu'a réussi Xi Jinping jusqu'à présent. Seuls les noms de Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine, et Deng Xiaoping, artisan des réformes à la fin des années 70... Ces deux noms figuraient dans les statuts du parti. Après quatre décennies de croissance effrénée, la Chine est entrée dans une nouvelle ère et l'homme fort de Pékin veut s'attaquer aux inégalités sociales en améliorant la protection sociale, mais aussi en assurant la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Xi Jinping mise aussi sur ses nouvelles routes de la soie, gigantesques programmes d'infrastructures qui doivent accroître l'influence chinoise à travers le globe. L'objectif est de transformer la Chine en grand État socialiste moderne d'ici 2050. Le pays sera alors doté d'une armée de premier rang mondial. Cependant, aucune libéralisation économique n'est au programme et le pays reste sous la chape de plomb du Parti communiste.
Enfin, vent de changement en Arabie Saoudite, le prince héritier a promis une nouvelle Arabie modérée et tolérante en rupture avec l'ultra-conservatisme religieux. Une déclaration qui devrait plaire aux jeunes et aux investisseurs étrangers. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la Minute Éco, c'est avec Jacques Aristide.
La monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne verra pas le jour en 2020, contrairement à ce qui était prévu. C'est ce qu'a déclaré le président de la commission de la CEDEAO à l'ouverture d'un sommet des chefs d'État du bloc régional à Niamey. D'après Marcel de Souza, la feuille de route visant à aboutir à cette monnaie unique n'a pas été mise en œuvre vigoureusement. Les présidents nigériens Mahamadou Issoufou, ivoirien Alassane Ouattara, ghanéen Nana Akufo-Addo, Nigérian Muhammadu Buhari et Togolais Fornia Singbe prennent part à ce sommet 30 ans après le lancement de l'idée de monnaie unique. La CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. Le géant américain des boissons non alcoolisées Coca-Cola prévoit d'investir jusqu'à 90 millions de dollars au Kenya au cours des trois prochaines années afin d'augmenter sa gamme de produits sur le marché kenyan, locomotive des économies est-africaines. Le groupe est confronté à une rude concurrence au Kenya de la part des entreprises telles que SAB Miller et Pepsi. La Banque centrale du Botswana a abaissé ce mardi son taux directeur à un niveau record de 5%, invoquant des perspectives d'inflation positive et des efforts pour stimuler l'activité économique. Ce petit pays, relativement riche d'Afrique australe, exporte principalement le diamant et le bovin.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdulrahman, bonsoir à tous.
L'attaquant de Tottenham, Harry Kane, fait flamber les prix.
Eh oui, l'attaquant anglais pourrait coûter cher, une somme record de 250 millions d'euros en indemnité de transfert si le Real Madrid souhaitait l'attirer. C'est ce qu'a estimé le président du club madrilène Florentino Pérez. Auteur de 13 buts en 12 matchs cette saison, Kane, un joueur de 24 ans, alimente toutes les convoitises, alors que l'avant-centre français Karim Benzema, qui vient de prolonger en Real jusqu'en 2021, est régulièrement critiqué en Espagne pour des statistiques jugées insuffisantes. S'il se concrétisait un jour, un tel montant surpasserait le transfert record établi par le Paris Saint-Germain pour recruter le Brésilien Neymar. On se souvient cette somme faramineuse, 222 millions d'euros.
Dixième journée du championnat italien.
Et oui, une belle occasion pour l'Inter Milan. Les Milanais peuvent chipper la place de leader de la Serie A en cas de victoire à la Sampdoria ce soir et mettre la pression sur Naples qui affronte demain le Genoa. La Juventus qui complète le podium à un point de l'Inter sera elle opposée au Spal avant-dernier de la Serie A.
En tennis, Serena Williams garde espoir au Masters de Singapour.
En effet, l'américaine, cinquième joueuse mondiale, s'est relancée dans la course à la qualification pour les demi-finales du Masters en décrochant son premier succès aux dépens de la Lettonne Yelena Ostapenko. Le score 7-5, 6-7, 7-5 à Singapour après 3h13 de jeu entre l'aînée des sœurs Williams, 37 ans, et la benjamine du tournoi puisque Ostapenko n'a que 20 ans. Venus Williams affrontera l'Espagnol Garbine Muguruza. Ce sera jeudi lors de son dernier match de groupe.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et seulement 4 matchs de NBA et déjà un triple-double pour Ben Simmons. Le rookie australien a brillé et largement contribué au succès de Philadelphie contre Détroit, 97 à 86. Le champion en titre Golden State s'est rassuré avec une deuxième victoire de la saison contre Dallas, 133 à 100. Les Bucks de Milwaukee s'imposent 103 à 94 contre Charlotte. Et dans la conférence Est, la seule équipe toujours invaincue, c'est Washington qui a battu Denver, 109 à 104.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite de 4 jours en Centrafrique. Le mandat de la MINUSCA, qui expire le 15 novembre, devrait être renouvelé. La mission onusienne subit de nombreuses critiques face aux violences qui ont fait des centaines de morts rien que cette année. Ekiabadou a joint à Bangui Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Ce qui nous intéresse, c'est qu'il donne des instructions pour que les engagements des forces des Nations Unies dans le but de protéger les populations civiles soient respectés et que le chapitre qui leur donne ce mandat soit effectivement appliqué.
Que pensez-vous des 10 000 casques bleus qui sont là? Parce que vous dites que vous voulez qu'elles agissent d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous souhaitez par rapport à ces forces? Que pensez-vous de leur travail sur place?
Les forces qui sont sur place sont largement équipées, mais ils ne font pas le travail qu'ils sont venus faire. Parce que la première mission qui est la leur, c'est de ramener la paix en République centrafricaine. Malheureusement, quand ils sont arrivés, il n'y avait que 2 groupes armés qui se battaient. Mais aujourd'hui, nous en avons pratiquement 14 qui sont sur le terrain. Deuxièmement, quand ils sont arrivés, il y avait un nombre raisonnable de victimes. Mais aujourd'hui, le nombre de victimes qu'ils ont trouvées est multiplié pratiquement par 8 ou par 10.
Au vu de ce que vous dites, vous avez l'impression que ça empire?
Oui, mais non seulement que ça empire, mais que nous avons relevé des crimes graves, des atteintes graves ou des violations graves des droits humains, c'est des meurtres, c'est des viols, c'est des abus sexuels. Et en leur présence constante, par lesquelles eux-mêmes ils ont filmé, documenté, alors qu'ils avaient l'obligation de ne pas laisser faire. Nous avons aussi des preuves que les forces négatives ont traversé leur protection, leur zone, leur barrière pour aller commettre des actions et revenir traverser cette même barrière. Nous avons des preuves de ça. 12 000 hommes de troupes avec des avions de combat, des moyens de communication les plus modernes, y compris des drones, des véhicules blindés. Ces violations que nous connaissons aujourd'hui en République centrafricaine ne devraient pas l'être.
C'était Joseph Bindoumi de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, joint à Bangui.
Ekiabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur la situation en République centrafricaine. Depuis 2013, plusieurs groupes armés sèment la désolation dans le pays malgré la présence de plus de 10 000 casques bleus. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite en RCA. Faut-il envoyer plus de casques bleus? Comment sortir de cette crise? Comment rétablir la paix dans le pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Assise nationale sur la sécurité au Burkina, elle réunit depuis ce matin à Ouagadougou près de 600 personnes. L'objectif est d'aboutir à l'élaboration d'une nouvelle politique sécuritaire dans ce pays qui a subi plusieurs attaques djihadistes depuis 2015. Sur la pertinence d'un tel forum, Bagassi Koura a joint l'analyste politique Siaka Koulibaly.
L'opinion en général semble très sceptique quant à l'efficacité du forum à l'heure actuelle, étant donné l'aptitude du phénomène de l'insulte. Mais je pense qu'au vu de la thématique qui est proposée, le forum peut avoir sa justification, en particulier s'il arrive non seulement à mobiliser les acteurs pertinents, mais aussi à animer de telle sorte à ce que ces acteurs-là contribuent efficacement à la formulation d'une réponse de l'État soit vraiment efficace sur le problème. Donc, il s'agit d'avoir une réponse qui soit globale, complète, et non pas seulement axée sur les aspects purement militaires.
À votre avis, est-ce que tous ceux qui devraient prendre part à un tel forum ont été conviés?
Bon, je ne peux pas répondre de façon absolue à cette question, étant donné que je n'ai pas encore vu la configuration de la participation. Et j'imagine qu'ils ont, enfin, je veux parler du ministère de la Sécurité, ont identifié la question de la contribution de tous les acteurs à la question sécuritaire.
Il y a quelques semaines, quand on a annoncé ce forum-là, les critiques disaient que c'était un autre forum de plus, parce qu'on connaissait déjà les problèmes en ce qui concerne la sécurité.
Oui, cet argument financier, à mon avis, n'est pas très pertinent parce que le forum est évalué à 155 millions et ce n'est pas ce montant qui va nous assurer une mise à jour efficace du matériel militaire et de la formation. Il faut plusieurs milliards, dizaines de milliards pour pouvoir résorber le déficit matériel et de formation que les forces de défense et de sécurité connaissent aujourd'hui. En revanche, ce forum, s'il est bien animé et bien conduit, il peut permettre de régler deux types de problèmes. D'abord, le dysfonctionnement entre les différents services de sécurité, en particulier police et gendarmerie, qui influence aujourd'hui la question du renseignement, et aussi la contribution des groupes non étatiques, puisque plusieurs services de sécurité, y compris le chef d'état-major général de l'armée, a parlé de la non-contribution des populations à leurs activités. Donc, ces deux questions en particulier peuvent être résolues par le forum.
C'était l'analyste politique Siaka Koulibaly à Ouagadougou. C'est le 6 novembre prochain que devrait reprendre devant la CPI, la Cour pénale internationale, le procès de Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité, des crimes commis en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En attendant la reprise de ce procès, Georges Ibrahim Tunkara est allé à la rencontre de quelques Ivoiriens pour recueillir leurs impressions.
Le 6 novembre prochain, les Ivoiriens seront sans doute encore nombreux devant leur petit écran pour suivre le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, un procès qui les passionne depuis son ouverture en janvier 2016. Jean-Marc Kouassi est étudiant, il plaide pour une justice équitable.
La justice doit être équitable, c'est-à-dire que c'est le remède d'une nation. Lorsque la justice n'est pas faite là, c'est des plaies, c'est comme un volcan qui est en train de bouillir à petit feu, puis matin, on aurait souhaité soit on règle ça comme en Afrique du Sud, on fait table rase et puis on avance. La justice là, il faut que les deux parties ou un conflit viennent s'expliquer. Quelque part, moi je salue le procès parce qu'à travers le procès, il y a des choses qu'on ne savait pas, des choses que les Ivoiriens ne savaient pas, qui ne sont pas sorties.
Franck Bailly est lui fonctionnaire. Il est temps, dit-il, que ce procès prenne fin et que les Ivoiriens se retrouvent en vue d'une vraie réconciliation.
Je crois que ce procès doit s'arrêter parce que plus on va de procès en procès, de témoin en témoin, ça peut frustrer, puis ça peut encore révolter la population. Pour une paix durable, on doit essayer de s'asseoir nous tous pour qu'ensemble les Ivoiriens puissent connaître la vérité, la vraie vérité. Et dire même s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de grave, aujourd'hui c'est le temps du pardon, c'est le temps de la vérité, laissons tomber tout. On doit arrêter ce procès, on doit trouver un terrain d'entente entre nous les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant.
Au mouvement ivoirien des droits humains, on n'entend pas les choses de cette oreille. Le MIDH se réjouit de l'organisation de ce procès et espère que toutes les parties seront entendues par la CPI. Maître Yacouba Doumia du MIDH.
Nous attendons aussi en fait l'action de la Cour pénale internationale par rapport aux partisans de M. Ouattara qui voilà ont aussi commis des exactions. Nous en appelons en tout cas au bureau du procureur pour que les enquêtes qui ont été ouvertes puissent être menées à terme, que le procès de M. Gbagbo et Blé Goudé puisse arriver à terme et que nous sachions exactement, voilà, vous avez bien vu qu'il y a des témoignages qui nous ont permis de comprendre un peu l'organisation des forces de défense et de sécurité. Et donc, d'autres procès pourraient nous permettre de comprendre l'entièreté des responsabilités dans la crise que nous avons vécue.
Rendez-vous le 6 novembre pour la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la jeunesse proche de l'ancien président ivoirien. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Maroc, Nasser Zefzatfi, le leader du mouvement de contestation dans la région du Rif, et une trentaine de prévenus ont comparu aujourd'hui devant la cour d'appel de Casablanca. L'audience a été renvoyée au 31 octobre à la demande des avocats de Zefzatfi. La cour s'est également prononcée sur le cas du directeur du site d'information Badil, Hamed Al-Bahdawi, poursuivi lui aussi en lien avec le mouvement du Hirak. Yacouba Ouedraogo a joint Nadia Benchek, journaliste freelance à Casablanca.
La séance a connu un certain désordre en raison notamment de la salle jugée petite pour le déroulement du procès. Une pagaille causée vraisemblablement par le manque de sièges pour détenus et avocats. Les détenus au nombre de 32 personnes n'ont pas pu s'installer face au juge par manque d'espace, mais aussi parce que les avocats de la défense n'ont pas souhaité céder leur place. Par ailleurs, Nasser Zafzafi, dont c'est la première apparition depuis son arrestation, a contribué à chauffer la salle en proférant des slogans de militantisme, des slogans repris par les familles des détenus présents sur place.
Quel genre de slogan Nasser Zafzafi scandait?
Des slogans genre, je cite, « Vive le RIF ».
Le procès a été ajourné au 31 octobre, il fallait s'y attendre?
Non, puisque personne ne connaissait les conditions ni comment ça allait se dérouler. Bon, finalement, il a été décidé en commun accord avec les avocats, etc., de reporter le procès de Nasser Zafzafi. Pas plus d'informations non filtrées.
Quels sont les chefs d'accusation qui sont retenus contre Nasser Zafzafi et ses co-accusés?
Entre autres, atteinte à la sécurité de l'État, tentative d'homicide volontaire et trouble à l'ordre public.
Et qu'est-ce qu'ils encourent comme sanction?
Pour l'instant, personne ne peut dire qu'il encourt tant ou tant ou tant. Peut-être qu'il encourra plusieurs années d'emprisonnement, mais seule l'issue du procès pourra déterminer des sanctions qui lui seront appliquées.
La Cour d'appel de Casablanca doit aussi traiter du cas de Hamid El Madawi, journaliste et directeur de publication du site d'information Badil. Qu'est-ce qu'on lui reproche?
Oui, ce procès concerne trois dossiers groupes, dont celui de Zafzafi, Nabil Hamjik et le journaliste Hamid El Madawi. Le journaliste aurait été reconnu coupable d'incitation d'individus à commettre des délits par des discours dans des lieux publics. Il a été condamné à 3 mois, puis sa peine a été alourdie à 1 an, suite à quoi il avait entamé une grève de la faim, mais qu'il a interrompu à l'appel du comité d'avocats qui assure sa défense.
Donc sa peine a été maintenue, sa peine d'1 an de prison.
Pour l'instant, il est toujours parmi donc les personnes qui figurent dans ce groupe de personnes incriminées.
Est-ce que les manifestations ont cessé dans le RIF?
Jusqu'à présent, oui, c'est le calme qui règne.
C'était Nadia Bencher, journaliste à Casablanca.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
De cette édition mise en onde par Joselle Morissin. À la console, il y avait Robert Wagner, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité en continu. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako.
Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.